Vertigo de 16h30 à 18h sur la première.
Bonjour.
Bonjour.
Alors pour vous, c'est une corvée, paraît-il, d'écrire une carte postale ou une carte de vœux. Par contre, vous êtes de ceux qui disent « je suis pas inspiré » et vous publiez un premier roman de 660 pages.
C'est vrai que j'ai jamais été un grand fan d'écriture. J'ai dû bien sûr écrire mon mémoire à l'université, faire des travaux à l'école, mais ça a toujours été un peu une corvée, j'ai dû me forcer. Et c'est vrai qu'avant de démarrer ce polar, j'avais jamais en tout cas écrit quoi que ce soit de personnel, on va dire.
Vous avez un parcours étonnant, Marc Woltenhauer, des études en théologie. Ensuite, vous avez travaillé 8 ans dans les ressources humaines d'une banque genevoise. Vous êtes parti en voyage. Et maintenant, vous êtes manager dans une entreprise pharmaceutique. Donc, la théologie peut mener à la pharma.
Alors, en raccourci, c'est exactement ça. Je pense qu'il y a un fil conducteur aussi dans mon parcours, c'est l'intérêt pour l'être humain, puisqu'à la banque, j'ai travaillé dans les ressources humaines, et même aussi mon travail aujourd'hui, c'est aussi de conduire des équipes, et c'est ça qui me tient à cœur.
Et le polar là-dedans, c'est aussi un attrait pour l'humain ?
À la base, je pense que l'attrait pour le polar, j'ai toujours été un grand fan de films policiers, de romans policiers, c'est certain. Je me suis rendu compte aussi en écrivant que j'étais très attaché au personnage et puis à essayer aussi de décrire ce qu'ils pensent, d'approcher un petit peu les personnages en profondeur, pas simplement en surface.
Alors, la théologie peut mener à la pharma, la théologie peut mener au polar, on va le comprendre avec vous, Marc Woltenhauer. Dans votre roman, tout commence à Grillon, au temple, là où gît un cadavre, nu, sur l'autel, la table sainte, les yeux arrachés. C'est une boucherie complète.
Un joli tableau.
Oui, un tableau christique.
Oui, c'était un peu l'image de départ, et je pense qu'il justement concilie à la fois mon background théologique et puis mon attrait pour le polar. Et pour démarrer, je me suis dit que c'était bien de commencer dans le temple.
Oui, c'est peut-être même là que tout finit, qui sait. Ce qui marche très bien avec ce polar, ce sont les localismes, évidemment. On est dans un roman suisse, on est dans un roman vaudois. On y reconnaît tout, les paysages. Je vous ai amené une photo. Je vous laisse la décrire.
Alors, c'est une magnifique photo du Muvran, du Grand Muvran, qu'on voit probablement. La photo est prise en début de soirée, puisqu'il a ses couleurs rose, orange, qui sont caractéristiques à ce moment-là de la journée.
Et le Grand Muvran, évidemment, c'est le titre de votre roman. Mais il y a une légende qui l'accompagne. C'est quoi cette légende ?
La légende du dragon du Muvran, que j'ai découvert juste au démarrage de mes réflexions sur le scénario. En fait, c'est une légende toute simple qui raconte que quand le soleil se couche, le dragon se réveille, prend son envol, et puis il vole au-dessus justement des montagnes, au-dessus de Grillon, pour cracher ses flammes de feu. Et cette légende explique en fait pourquoi on voit justement ce grand Muvran avec ses couleurs
comme orange.
Rougeâtres, ouais. Comme orange. Puis on dit aussi dans la légende que c'est ce dragon qui fait fondre la glace sur les lacs, notamment le lac des Chavonnes en hiver.
Alors on est bien en Suisse romande avec vous. Il y a le Muvran, il y a le Café Pomme de Grillon.
Oui.
Donc c'est vraiment le nom du bistrot qui apparaît
absolument,
dans votre roman. Il existe vraiment. Oui. Vous seriez un auteur plus connu, on vous accuserait de placement de produits. Là, c'est pas le cas. Vous décrivez les ruelles de Grillon, les vieilles pierres. Mais c'est aussi une ville fantôme, hors saison Grillon.
Oh, j'irai pas jusque là. C'est pour moi non. C'est un village qui est très vivant justement en tout cas.
Dans le roman, c'est ainsi qu'il est un peu décrit.
C'est clair que si on va à Grillon maintenant pendant les vacances scolaires, il y a énormément de monde. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Grillon, qui y vont pour les vacances. C'est nettement plus calme hors de ces périodes touristiques, mais c'est un village que j'aime beaucoup aussi justement parce qu'il est très vivant, il y a beaucoup d'activités, il y a une vraie vie de village que je trouve tout à fait magnifique.
Qu'est-ce qu'il a de romanesque ce village ?
Je trouve, déjà, en tout cas, le village de Grillon, il y a vraiment, comme vous l'avez décrit tout à l'heure, ces petites ruelles, cette vieille église, tout en pierre. Il y a aussi des magnifiques chalets avec les décorations, les peintures qui datent aussi, ça, pour certains, au XVIIIe siècle. Donc, c'est un vrai village historique que je trouve extrêmement charmant, chaleureux. Donc, c'est, pour moi, c'était quelque chose de très parlant. Quand je cherchais je cherchais pas vraiment à trouver un lieu. En fait, ça s'est imposé à moi. J'ai tout de suite su que c'est à Grillon que je voulais écrire.
Vous y allez souvent? C'est un village. Vous vivez pas à Grillon, vous?
Non, j'y vis pas malheureusement à l'année, bien que ça serait pas. Ça serait quelque chose que j'aimerais bien. Mais pour l'instant, j'ai la chance d'y aller quasiment tous les week-ends, puisque ma belle famille est de Grillon.
Voilà, on y arrive. C'est donc pour ça. Ils vous disent quoi à Grillon, après vous avoir lu?
Alors, pour moi, c'était un petit peu le test au début, en me disant, est-ce que les gens du village vont, non pas s'y reconnaître eux-mêmes, mais reconnaître les lieux, reconnaître l'ambiance, est-ce que Grillon va être bien décrit? Et d'après les commentaires que j'ai eus, les feedbacks que j'ai reçus des habitants de Grillon, il semblerait que j'aie plutôt bien réussi dans cet exercice. Pour preuve aussi, le jour du lancement, on avait organisé d'ailleurs une rencontre dans le temple de Grillon, et puis il était plein à craquer.
Je ris parce que donc c'est le lieu du crime, enfin un des lieux du crime. Et, ah oui, c'est audacieux, c'est comme audacieux comme idée, non, de vernir un roman là où s'est produit le crime.
Oui, alors c'était tout à fait approprié. Ouais. Et puis j'étais très très heureux aussi que la paroisse et le pasteur de la région acceptent qu'on puisse faire ça dans le temple.
Et encore une fois, pour dire que votre polar est très bien ancré là en Suisse romande, on a droit aux marques des magasins, on sait exactement quel vin les personnages boivent, on sait quelle presse est lue dans le coin, il y a le 24 heures, il y a même un journaliste du matin. Donc là, on est en plein dedans. Est-ce que c'est pour s'assurer que le lecteur puisse bien se projeter dans sa lecture?
Pour moi, c'est important que je sois plus proche de la réalité par rapport aux endroits, aux lieux. Et du coup, pour moi aussi, ça en faisait partie, de tout cet environnement que j'ai pas voulu trafiquer en mettant des faux noms, mais au contraire en utilisant l'existant. Et vous avez parlé de placement de produits, c'est pas tellement ça, c'est aussi pour mettre en valeur, je dirais, la réalité des lieux, que ce soit des lieux ou des endroits, des produits, etc.
Le héros de votre roman est inspecteur, il s'appelle Andreas. Comment ce personnage-là s'est-il imposé à vous? Vous disiez que c'est assez évident que Grillon soit le personnage de votre roman, soit le paysage de votre roman, que ça s'est imposé à vous. Et cet inspecteur-là, comment?
Alors en tout cas, le lieu s'est imposé à moi, ça je peux le dire. Les personnages, ça a pris un petit peu plus de temps et je pense qu'ils ont évolué au cours de l'écriture. Ils ont eu besoin de mûrir. Vous parlez de l'inspecteur, mais aussi les autres personnages du livre. Je pense aussi que l'évolution n'est pas terminée. Il y a 600 pages, mais en fait le récit se déroule sur 2 semaines, donc si on prend cet élément-là, en 2 semaines on raconte pas non plus tout, et puis il y a encore un avenir que ces personnages vont vivre.
Donc il y a une suite, c'est ça que vous dites entre les lignes,
tout
c'est qu'il
y
aura une autre, ça va devenir un personnage de série, c'est ça?
En tout cas le deuxième est en cours d'écriture.
Donc lui, Andreas, il a 40 ans, il est assez égocentrique. Oui, vous validez. Instinctif.
Oui.
Déterminé.
Oui.
Il ne recherche pas la gloire non plus.
C'est juste.
Il est homosexuel, ce qui me fait penser qu'il y avait peu d'inspecteurs gays dans la littérature. Enfin, pas que dans la littérature.
Oui, alors effectivement, ça c'est un élément intéressant. Moi, je lis beaucoup de polars et puis on voit souvent des inspecteurs ou des héros inspecteurs de police qui ont souvent soit des problèmes avec l'alcool, qui ont des problèmes de stabilité dans leur vie sentimentale. Et puis j'avais envie de changer un peu cette image et puis de venir avec un personnage un peu différent.
Différent donc gay, mais en couple standard, très cosy. Finalement, il est très amoureux de Michael, son compagnon, qui prend pas mal de place dans ce roman.
Oui, il a une certaine place, c'est sûr.
C'est pas la femme de Colombo, quoi, ça veut dire, dans le sens où il existe réellement.
Non, on le voit, il existe, il agit, il fait partie il participe aussi à l'enquête, vu qu'il est aussi journaliste, il a un peu ce côté, je dirais, fouineur, ou cet intérêt de rechercher, de creuser, et puis il participe pleinement, donc c'est presque une sorte de duo.
Marc Woltenhauer, restez avec nous, on se retrouve après Bertrand Belin, Hyper Nuit.
Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, le mal grandit celui-même. Il entoure de la maison, hyper nuit, hyper nuit. Celui bien nommé la bête, celui qui buvait le lait au pimen, celui-là même qui se souvient d'un jour derrière, bien enfui, bien qu'enfui. Il n'a rien oublié du jour entre tous cruel, au bout duquel il a vu sa maison brûler, puis tomber. Là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Hélas, je suis là, je suis là. Il entoure de la maison, hyper nuit, il n'a pas oublié ce jour entre tous cruel, au bout duquel tout est parti, tout en fumée. Dans le ciel, là, il revient pour se venger de tout un village, de tout un village. Et là, je suis là, je suis là. Fait passer le goût des fleurs, le goût des fleurs, le goût des fleurs,
le goût des fleurs,
le goût des fleurs,
le goût des fleurs, le goût des fleurs.
Hyper nuit, Bertrand Belin, Marc Woltenhauer est notre invité dans Vertigo. Sur la première, il signe Le Dragon du Muvran aux éditions Plaisir de Lire. Il s'agit d'une vaste enquête sur les traces d'un tueur en série. Un tueur en série qui peut-être vous passionne, comme l'inspecteur de votre polar, Marc Woltenhauer.
Oui, je trouve que les tueurs en série, c'est intéressant. Parce qu'on peut vraiment travailler sur la complexité psychologique du personnage. On peut aussi du coup c'est intéressant pour moi de le créer ce personnage, de créer son passé, son présent, aussi le cheminement, et finalement d'écrire aussi comment il en est arrivé à devenir ce tueur en série.
Vous avez potassé sur les profils des tueurs en série, sur les histoires, oui, de vrais tueurs en série.
Oui, il y a un site fort intéressant d'ailleurs qui s'appelle tueurensérie.org.
Ah bon, ça existe.
Oui, ça existe. Et où sont en fait décrits la plupart des grands tueurs en série de l'histoire américaine, mais aussi ailleurs dans le monde, avec une analyse souvent aussi un peu psychologique des personnages, où leurs histoires sont racontées.
Un point commun à ces histoires ? Est-ce qu'il y a une blessure commune ? Est-ce qu'il y a un profil type du tueur en série ? Ou il y a autant de tueurs en série que de...
Alors, je ne suis pas un spécialiste des tueurs en série. Il y a de nombreux ouvrages qui sont écrits sur le sujet. Mais en tout cas, ça m'a permis, en lisant tous ces différents profils, de pouvoir, je dirais, alimenter ma réflexion et puis créer le tueur qu'on va retrouver dans Le Dragon du Muvron.
En tout cas, le vôtre est très intelligent.
Oui.
Très méticuleux.
Oui. Il fait partie de ce qu'on appelle les tueurs en série plutôt organisés.
Mm-hmm. Prémédite tout. Et oui, là, depuis fort longtemps, il a le goût du jeu de piste. Ouais. Il s'amuse énormément. Ouais. Il est malin et il est drôle. Enfin, il est drôle. On se comprend, excusez-moi. C'était pas l'adjectif le plus adapté. Ouais. Mais il s'amuse vraiment avec les vivants et les morts.
Oui, c'est intéressant avec les vivants et les morts, c'est vrai qu'il il joue avec la police, il joue avec les journalistes. C'est quelque chose qui se sent fort. Il sait qu'il est intelligent, il sait qu'il est il a une peut-être même une intelligence au-delà de la moyenne, qui lui permet justement d'être aussi froid, efficace, organisé, structuré. Et puis dans le livre, le fait de mettre en place un peu un jeu de piste, de jouer avec les différents interlocuteurs, lui permet aussi de se sentir encore plus fort parce qu'il
contrôle.
C'est lui qui est aux commandes.
Ouais. La particularité de votre polar, c'est aussi sa dimension théologique. Il y a des questions sur les ténèbres, il y a toujours des références à des versets bibliques, des sortes de prophéties aussi. La religion dans cette histoire, non seulement prend de la place, mais une dimension assez inquiétante.
Inquiétante ?
Oui.
moi, j'y voyais deux choses. Pour moi, le premier élément, c'est justement ce jeu que le tueur en série met en place avec des versets bibliques, avec une compréhension, je dirais, des textes qui lui est très personnel.
C'est en cela qu'elle est inquiétante. Ouais,
c'est un des aspects, je dirais, qui est lié au personnage du tueur en série. Sinon, l'autre partie, je pense qu'elle est plutôt liée à la profondeur des personnages, qui est un élément important pour moi. J'avais envie de creuser et puis de suivre ces différents personnages et aussi leur réflexion par rapport à ce qu'ils vivent,
à leur passé,
à leur foi. Il y a des questions de culpabilité, il y a des questions de vengeance, il y a des questions de pardon. Enfin, il y a plusieurs thèmes comme ça qui sont liés à l'humain et qui m'intéressent et que je voulais explorer avec ces personnages.
Autrement dit, dis-moi ce que tu comprends de ce verset biblique et je te dirai qui tu es.
Oui, c'est une manière de dire les choses, effectivement. Et chaque personnage a sa propre relation avec... on peut parler de la foi, mais aussi... Mm-hmm. Mais peut-être plus que la foi aussi avec sa propre existence, avec l'existence humaine, avec aussi tout ce qui se passe dans le récit, comment ça les impacte. Finalement, comment est-ce que le tueur en série est impacté par ce qu'il vit, comment est-ce que l'inspecteur vit cette enquête, comment est-ce que... Alors, je ne vais pas trop en parler des autres personnages, mais chacun a dans le livre, j'essaie de développer cette relation aux événements.
Et lui, l'inspecteur, donc le héros de votre roman, évoque sa foi et dit ceci. Je crois en Dieu, oui, et je suis profondément attaché à la dimension humaine de la Bible et aux valeurs de la culture chrétienne, mais je dois reconnaître que le cadre ecclésial et le langage liturgique ne me parlent pas vraiment. La perspective communautaire ne m'intéresse pas. Je préfère prier dans mon coin, une sorte de relation privilégiée et privée.
Oui, il n'a pas tout à fait la personnalité pour aller au culte le dimanche matin, mais pour lui, justement, cette dimension humaine, je dirais plutôt dimension spirituelle, c'est quelque chose qui est important pour lui aussi.
Et son compagnon, Michael, a fait comme vous, des études en théologie. Il a grandi dans un environnement familial, comme vous, fortement marqué par la religion. Je crois savoir que votre grand-père était évêque.
Oui, mon grand-père était évêque. Donc mon grand-père maternel était évêque de l'église luthérienne en Suède. Après, la similitude s'arrête là, puisque Michael, le journaliste, a vécu dans un environnement religieux qui était assez pesant pour lui, alors que
c'était pas
du tout mon cas.
Vous,
puisque j'ai décidé de faire des études de théologie pour devenir pasteur.
Vous voulez devenir pasteur?
Oui, j'avais décidé ça quand j'avais 12 ans. C'était un peu une sorte de révélation à ce moment de ma vie. J'ai dit, je veux devenir pasteur. Donc, j'ai fait mes études de théologie. Après, le parcours s'est fait un petit peu en fonction de d'autres aspects. Et puis, voilà, vous l'avez cité tout à l'heure, j'ai travaillé dans la banque. J'ai travaillé maintenant dans le domaine du pharma. Mais...
Et vous êtes d'origine suédoise, alors, si j'ai bien compris?
Ma mère est suédoise. Mon père est allemand. Par contre, je suis né à Genève. J'ai grandi et vécu de nombreuses années.
Vous parlez le suédois ?
C'est ma langue maternelle.
Mmh. Et l'allemand aussi ?
L'allemand, oui. Je l'ai appris avec mon père.
Vous êtes un grand voyageur. C'est peut-être de ces origines multiples, de ce brassage culturel qu'est né votre goût du voyage. Vous êtes parti 2 ans sur les routes.
Alors, pendant 2 ans, j'ai fait un break de 2 ans. Et puis, j'ai à peu près voyagé pendant une année avec mon ami autour du monde. C'est une période de nombreux voyages, mais sinon aussi, on aime bien être à la fois à Grillon, à la montagne, ou alors aller en Suède justement où on a une maison avec la famille.
Ah oui. Et là, de tout cela, j'imagine encore une fois de la matière romanesque, de ces voyages de la Suède. On va parler tout à l'heure de la littérature scandinave qui a dû fortement vous influencer, non, Mark Woltenhauer?
Oui, très volontiers.
Vertigo avec vous jusqu'à 18h, de la musique à découvrir grâce à Michel Masseret, du cinéma avec Raphaël Wolf, des médias en compagnie de Mathieu Chevrier, de la littérature bien sûr, grâce à notre invité du jour qui nous emmène dans une enquête à Grillon, à 1114 mètres d'altitude. Grillon, village de charme et d'émotion, c'est ce que vous pouvez lire sur le site internet de la commune. Grillon, village de crimes et de frissons, c'est plutôt ce que vous lirez dans le roman de l'écrivain Mark Woltenhauer. Il signe un polar aux éditions Plaisir de lire, Le Dragon du Muvran, 660 pages qu'on ne lâche pas jusqu'à la fin. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je finis au presbytère.
Vertigo, Christine Gonzalez.
Ne me regardez pas comme ça, Mathieu Chevrier. J'ai pas commis de péché, à part d'essayer de vous faire sourire. C'était peine perdue. Mark Woltenhauer, vous êtes fan de polar nordique. Vous en avez dévoré un certain nombre.
Oui, alors je suis vraiment fan des polars à la base suédois. Et après, j'ai élargi mes lectures aux polars venant de Norvège, d'Islande, Danemark. Et j'ai la chance aussi, comme le suédois est ma langue maternelle, de pouvoir les lire en suédois. Et c'est vrai que c'est vraiment ma lecture de chevet. Et j'ai même plus à suivre. Chaque année, il y en a qui sortent, donc c'est un peu dur.
Comment vous expliquez ce talent nordique pour le polar?
Alors ça, je ne saurais pas vraiment l'expliquer.
Parce que d'ailleurs, la littérature scandinave, partout dans nos rayons, là, ça, c'est une vague qui nous a complètement submergés.
Oui, c'est sûr. Je pense que ça a commencé avec Henning Mankell, et son inspecteur de police Wallander, qui est vraiment un des premiers en Suède, qui a aussi été connu, exporté, à écrire des polars avec cette dimension nordique qu'on apprécie, qu'on reconnaît, où ça se passe souvent dans des endroits plus ruraux. Chez Camilla Läckberg, on se retrouve dans un petit village de pêcheurs. Il y a Marie Jungstedt, que j'aime beaucoup aussi, qui écrit sur l'île de Gotland, par exemple. Ou Henning Mankell, ça se passe au sud de la Suède, aussi dans un petit village. Et puis au-delà de l'énigme policière, il y a aussi tout l'environnement qui est très important. Et puis c'est ça que je trouve aussi intéressant.
Il paraît que pour faire un roman scandinave, alors il faut un inspecteur tourmenté, qu'on place dans un bled, effectivement, avec des meurtres crapuleux, évidemment, et puis beaucoup d'alcool.
Non. Alors, en tout cas, dans le mien, il n'y a pas beaucoup d'alcool, il y en a de manière mesurée.
Alors, pas dans le vôtre. Non.
Mais c'est vrai qu'il y a un côté assez noir. On décrit aussi les côtés sombres de la société. Et puis, on relève aussi le côté en Suède que, en tout cas, l'hiver, il y a peu de lumière du jour. D'ailleurs, c'est souvent le soleil se lève à 10 heures, il se couche à 3 heures. Donc, il y a ce côté sombre qui est déjà
inquiétant
et présent en Suède.
J'ai vu votre roman en chouette voisinage, en librairie, à côté de Millennium.
Oui, c'est assez impressionnant. Quand il est sorti, déjà la première émotion de le voir disponible en librairie, et puis après quelques semaines de côtoyer des voisins aussi illustres, c'est très touchant.
Le dragon du Muvran est très bien construit consciencieusement, comme les meurtres d'ailleurs de votre tueur en série. Est-ce qu'il y a des techniques d'écriture pour écrire un polar?
Alors, je peux parler pour moi, parce que j'ai commencé ça de manière assez intuitive. J'avais assez rapidement rédigé, je dirais, le squelette de l'énigme et puis du roman. Et puis j'ai commencé à écrire. Et puis au bout de quelques chapitres, je me suis vite rendu compte que il fallait aussi avoir une sorte de structure et surtout de réfléchir à ne pas oublier des informations ou savoir à quel moment introduire tel élément et puis ne pas se tromper entre le nom des personnes ou l'âge des personnes. Donc il y a toute une structure derrière. Et puis voilà, moi j'ai trouvé aussi ma propre manière de faire ça. Mais c'est clair qu'il y a...
Vous avez quoi, des fiches techniques pour chaque personnage?
Je vais pas révéler tous mes... Bon, oui. Tous mes petits secrets, mais...
Des post-it.
La seule chose que je peux dire, c'est que comme au travail, j'aime beaucoup les fichiers Excel, donc mes collègues et mes chefs m'entendront dire ça, ils sauront pourquoi. Donc je faillis pas à cette tradition quand j'écris.
Donc votre roman, en fait, ordonne vos fichiers Excel, hein, c'est ça en gros. Il y a pas mal de récapitulatifs, je trouve ça intéressant, pour le lecteur qui, comme moi, parfois a besoin d'être accompagné, pris par la main, parce qu'il y a tellement d'informations, il y a pas mal d'intrigues qui se croisent. Mmh. Et puis vous trouvez des petites combines comme ça, ci ou là, pour nous résumer en fait où on en est dans l'enquête. Ça, c'est malin.
Je pense, pour moi, c'était aussi intéressant pour moi aussi à la base de faire de temps en temps le point de la situation. Et finalement, je l'ai intégré dans le récit en disant, ben, les inspecteurs de police se retrouvent pour faire le point. Et ça permet justement de récapituler. Et puis, des fois, quand je lis aussi des romans, je me dis, ah, il faut que je remonte, je sais pas, 50 pages en avant, parce que je me rappelle plus de tel élément. Puis du coup, on sait plus où il était, donc on perd du temps à feuilleter.
J'aime pas ça.
À feuilleter tout le livre. Après, je pense qu'il faut pas en abuser, mais ça permet d'avoir un peu des points de repère, surtout quand il y a un certain nombre de personnages, de noms, etc.
C'est important pour vous, Mark Weltenhauer, d'être crédible, c'est-à-dire que vous êtes renseigné peut-être auprès de policiers ou de médecins légistes pour que chaque chose soit cohérente?
Oui, c'est un bon exemple, la médecine légale, puisque je l'ai employé dans le livre, et puis bien sûr je connaissais rien du tout, c'est pas en théologie que j'ai appris les bases de la médecine légale, et j'ai eu la chance de pouvoir justement discuter de tous ces aspects-là avec l'ancien responsable du centre de médecine légale à Lausanne, et c'était aussi un aspect très passionnant. Et d'ailleurs pour moi aussi, là, ma première rencontre avec lui était assez particulière, parce que je me suis retrouvé à avoir une liste de questions sur comment on faisait pour tuer quelqu'un avec du poison, et quels étaient les effets que ça produisait, et puis c'était assez particulier, mais très, très intéressant, enrichissant justement pour pouvoir être aussi crédible et construire
l'enquête. Est-ce qu'il est aussi scénique que celui de votre roman qui est assez drôle?
Non, alors il lui ressemble pas du tout.
Il dit dans votre roman, je pense que je vais rester, il y a des cadavres chouettes dans le coin. Pourquoi était-il devenu légiste? On gagne mieux sa vie que comme boucher.
Oui. Il faut bien mettre un peu d'ironie dans des choses aussi horribles et noires parfois.
Mais là, quand vous retrouvez devant ce médecin légiste, vous lui demandez des informations aussi incongrues, vous dites je suis écrivain, mais bon, quelque part, vous pouvez le prouver assez moyennement. Vous avez quand même dans le regard de la personne en face l'idée quand même que vous êtes en train de dire n'importe quoi et que potentiellement il est en train de vous donner des trucs
pour bien tuer.
Pour bien tuer.
Surtout que quand je l'ai contacté, j'avais encore pas écrit de roman. J'étais en pleine écriture, donc il me connaissait pas. Donc j'étais très très enchanté qu'il accepte de me rencontrer. Puis au fil du temps, on a aussi correspondu par mail. Et puis peut-être qu'il a été rassuré de voir que le dragon du Murant était finalement paru.
Voilà, là, on parle de médecine légale, parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de boucheries dans votre roman. Il y a quand même des scènes assez dures. On a quand même, je le rappelle, un tueur en série qui arrache, là je ne divulgue pas grand-chose, c'est d'entrer dans le roman, et qui arrache les yeux de ses victimes. Et vous le décrivez avec précision.
Oui, c'est un polar.
Oui, alors Raphaël trouve ça tout à fait normal.
Ça va.
C'est un polar.
Des choses beaucoup plus trash.
Honnêtement, j'ai lu aussi bien pire.
Excusez-moi, alors j'ai d'abord été un peu étonné qu'on arrache les yeux de son vivant.
J'ai l'impression aussi souvent qu'on fait un peu dans les polars de la surenchère, parce qu'on va être de plus en plus violent, de plus en plus décrire les choses. Je pense que je reste encore... effectivement, il y a des scènes qui sont assez violentes, mais globalement, il y a aussi peut-être un peu de légèreté, par ailleurs, qui donne un peu d'équilibre à tout ça.
Il y a pas mal de tendresse aussi. Mmh. Et puis, il y a pas mal, ça m'a interpellée, parce que je n'ai pas l'habitude, ça, en littérature, c'est de lire des scènes entières dédiées à ce que les personnages mangent. C'est vrai, en littérature, ils ne vont pas aux toilettes, ils ne se douchent pas, ils ne mangent pas. Mmh. Et là, dans votre roman... On les voit manger des spaghettis carbonara, on sait exactement comment est fait l'assiette, le poulet au saté, je me souviens aussi de spaghettis bolognaise. On mange dans votre roman, ça fait plaisir.
Oui,
c'est vrai, je me suis dit, mais ça n'arrive jamais, oui. Tiens.
Ce qui m'intéressait aussi justement dans pas mal de polars nordiques, c'est qu'on y parle de la vie quotidienne des personnages. On se retrouve dans les maisons, on participe un peu à cette vie. Et j'avais aussi envie, au-delà du lieu de Grillon, qui est pour moi un personnage à part entière, j'avais aussi envie d'intégrer cet aspect-là pour pas seulement pour les personnages principaux, mais aussi pour d'autres personnages. Et d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de feedback. Je pensais pas que j'aurais autant de feedback sur ce
là-dessus.
D'ailleurs, certains me disent « Ah, mais il faut pas en mettre trop, etc. » Et finalement, j'ai le sentiment que ça s'appelait, c'est peut-être ce côté de légèreté justement, de dire, mais il y a des temps de respiration entre des choses horribles.
Quelques verres de vin aussi.
Quelques verres de vin, de whisky.
Nécessaire, parfois. Marc Boltenhauer, on se retrouve dans quelques instants, le temps d'écouter la Toulousaine Jane Makeba.
Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui écoutent en direct et ceux qui podcastent. Toi, tu podcastes.
Makeba, 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 mak
Makeba de la Toulousaine Jane, ce qui m'aura donné l'occasion d'entendre Mathieu Chevrier chanter.
Non, c'est même pas vrai. Je ne chante pas.
Marc Woltenhauer ne chante pas, il l'écrit. Il signe Le Dragon du Muvran aux éditions Plaisir de lire. Plus de 4600 exemplaires tirés. Autant dire qu'en Suisse romande, c'est un raz-de-marée.
C'est magnifique. Je m'attendais pas à un tel succès. Et j'en suis très touché. Enfin, surtout ce qui me touche beaucoup, c'est tous les feedbacks que je reçois de manière quotidienne de gens qui l'ont lu. Et c'est une magnifique reconnaissance pour.
Comment vous expliquez ce phénomène? Parce que vous êtes inconnu. C'est votre premier roman. C'est un polar, certes, mais quand même.
Vous l'avez mentionné, je crois, tout au début. Il y a un des aspects importants. Beaucoup de gens aiment lire du polar. Ça, c'est un premier point. Le fait que ça se passe en Suisse, que c'est un polar très local.
Oui, mais
ça
a d'autres ingrédients en Suisse romande.
Des ingrédients importants. Après, pour le reste, c'était difficile pour moi de juger de ça. Mais en tout cas, avoir les feedbacks des gens, parce que beaucoup de gens ont eu du plaisir à le lire et puis en parlent autour d'eux. Et puis ça crée peut-être cet effet-là.
Et puis je le disais aussi, effectivement, que ce roman donne réellement envie d'être lu. D'un point de vue marketing, c'est implacable. Un roman où il est écrit en bandeau rouge, en grand, le polar nordique des Alpes vaudoises, ça appelle.
Oui, on l'a mis depuis le début de l'année. Le bandeau n'était pas là depuis le départ. On s'était dit que c'était une bonne manière aussi de le faire vendre, parce qu'on s'est aussi rendu compte que les gens, quand ils voient la couverture du livre, qui est noire, très sobre, alors elle interpelle, mais on ne sait pas tout de suite de quoi on parle. Et puis maintenant qu'il se trouve aussi en grande surface, c'est important peut-être de donner une indication supplémentaire pour donner envie aux gens de l'acheter.
Est-ce qu'il faut être soutenu aussi par les libraires pour faire un succès en Suisse romande?
Je pense que les libraires jouent un rôle très important.
Vous êtes allé les voir, vous allez leur serrer la main, discuter avec eux?
Oui, j'ai eu la chance aussi d'être invité pour des dédicaces un peu partout en Suisse romande. Il y en a encore quelques-unes de prévues ces prochaines semaines. Et c'est sûr que les libraires qui lisent, et si ça leur plaît, ben, ils vont aussi le conseiller. Donc c'est aussi un élément clé dans le parcours d'un livre, c'est certain.
Et tout Grillon a acheté votre roman. Il paraît qu'il en vend partout.
Oui,
à la boucherie.
Oui, même à la boucherie, effectivement, il est vendu un peu partout à Grillon.
Surtout à la boucherie.
Surtout à la boucherie, oui. Il y a eu beaucoup de livres vendus. Je crois que même le petit kiosque relais à Villars. J'ai pas les infos de ces dernières semaines, mais à Noël, ils étaient à plus de 250 exemplaires vendus. Donc l'attrait est d'autant plus fort dans la région.
Trouver une maison d'édition, ça a été compliqué pour vous?
J'avais fini mon manuscrit en novembre 2013. Oui, 2013. Je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition, principalement en Suisse romande. Et puis j'ai eu un premier contact 2 mois après, une réponse positive d'une maison assez rapidement. Puis j'ai même eu la chance d'avoir encore une deuxième réponse positive, donc 2 sur 4, c'était assez,
c'est un bon score,
assez extraordinaire.
Donc vous avez pu choisir. Ouais. Et vous avez choisi Plaisir de lire sur les deux qui vous ont dit oui?
Alors j'ai dit oui à Plaisir de lire tout de suite. C'était la première offre et puis c'est une maison d'édition que je trouve très intéressante parce qu'elle est aussi bien ancrée en Suisse romande. Elle existe depuis 90 et quelques années. Et c'est une maison d'édition de bénévoles aussi.
C'est la maison d'édition qu'avait publié Corinne Abille.
Oui.
Oui, oui.
Oui, et qui publie aussi
Maurice
Ramu.
Maurice Chapa, oui, Ramu, effectivement.
Ouais. Donc j'ai trouvé que c'était pour mon premier roman, pour mon premier polar, d'être accepté par Plaisir de lire. Je trouvais que ça. Et puis le nom Plaisir de lire aussi évoque quelque chose d'intéressant.
Il y a eu pas mal de retirages hein, pour cette maison d'édition, plusieurs réédition.
Oui, je crois que là, on en est au sixième, et encore voilà. Une recommande donc, la semaine dernière.
On n'avait pas vu venir ce succès non plus, mine de rien, même si... Même si on peut croire en ses auteurs, 4600 exemplaires tirés, c'est quand même assez remarquable.
Non, il paraît que la moyenne est relativement en dessous de 1000 exemplaires en Suisse romande.
2000, c'est déjà bien.
Il paraît que 2000, c'est déjà très bien. Donc, au début, la maison d'édition avait imprimé déjà 900. Et puis, ils sont partis très vite. Et puis après, voilà, les choses se sont enchaînées.
Vous êtes fait approcher par des cinéastes ?
Oui.
Parce que c'est un roman qui se... prête particulièrement bien à l'écran, j'ai l'impression. Donc oui, dites oui, c'est-à-dire.
Oui, alors on a.
Qui, quand,
on a...
comment, combien.
J'ai été contacté par une maison de production qui s'appelle Cap Production.
Ah oui.
Je crois 5 ou 6 semaines après la sortie du livre. Il y a d'ailleurs eu une soirée au mois de janvier.
Sils Maria, c'est eux d'ailleurs. Oui,
c'est Sils Maria, tout à fait. Une soirée où ils ont présenté leur projet, et puis ils ont aussi présenté le projet de film Le Dragon du Muvran. Donc on en est au tout début, dans ces prochains mois, je pense que les choses vont s'éclaircir et puis on va travailler ensemble sur ce projet.
Donc vous allez l'adapter vous-même ?
Alors, moi je ne saurais pas du tout écrire un scénario, ça c'est clair que ce serait la prochaine étape, mais en tout cas Cap Production m'a proposé de participer à la rédaction de ce scénario, donc c'est aussi une nouvelle aventure magnifique.
Vous le voyez en film quand vous l'écriviez ?
Je pense que je suis assez visuel quand j'écris. J'essaie vraiment de m'imaginer les lieux, de m'imaginer les scènes. On m'a dit aussi que le passage au film, sur certains aspects, n'était pas si compliqué que ça, parce qu'il y avait beaucoup de descriptions cinématographiques, aussi un style assez dynamique et direct. Après, il y a d'autres problèmes d'adaptation au cinéma, mais en tout cas, sur ces aspects-là, ça semble être assez proche du cinéma.
Marc Woltenhauer, je rappelle que vous signez Le Dragon du Muvran aux éditions Plaisir de lire, le polar nordique des Alpes vaudoises qui mérite largement son succès. Merci d'avoir accepté l'invitation de Vertigo, c'était un plaisir.
Merci, c'était un plaisir aussi d'être là.
À bientôt.
Vertigo sur la première.